Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au programme des questions d'époque aujourd'hui, la suite dans les idées. Bonjour Sylvain Bourmeau.
Bonjour Caroline Brouet.
Au sommaire de la suite dans les idées, en fin d'émission, on retrouvera Cyril Lemieux pour sa chronique. Mercredi dernier, le Sénat roumain a voté à l'unanimité une loi qui impose aux télévisions et aux radios du pays de diffuser 50% au moins d'informations positives parce que les sénateurs estiment que trop de mauvaises nouvelles peuvent nuire à la santé de leurs concitoyens. Eh bien Cyril viendra démontrer, étude de deux sociologies à l'appui, que les sénateurs roumains ont tort. Le dossier de la suite dans les idées sera consacré, Sylvain, à la figure de Marcel Mauss.
Oui, 15 jours après une émission consacrée à Durkheim, rien de plus logique que de consacrer une émission à Marcel Mauss. L'actualité nous en est donnée avec un livre de Sylvain Dzimira dont nous allons parler aujourd'hui.
Mais pour commencer l'émission, actualité éditoriale, Sylvain, puisque vous recevez le sociologue Christian Baudelot.
Oui, on va voir qu'il y aura quelques résonances avec le débat de tout à l'heure. Bonjour Christian Baudelot.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie, vous avez longtemps enseigné à l'Université de Nantes et puis à l'École normale supérieure notamment. On vous doit de nombreux livres dans une tradition durkheimienne aussi, notamment sur le suicide, mais aussi beaucoup sur l'école. Et là, vous avez coécrit avec Olga Baudelot, votre femme, un livre que vous avez écrit, je dirais, en alternant les chapitres. Je le rappelais, vous êtes sociologue, votre femme, elle, est psychologue, elle travaille sur la petite enfance notamment, et vous avez écrit un livre, au fond, le genre de livre dont on ne parle pas habituellement à la suite dans les idées, mais j'ai du mal de toute façon à classer ce livre. C'est un récit personnel, mais personnel à deux, d'une aventure très singulière. Ce titre, c'est Une promenade de santé. Il paraît aux éditions Stock. Et dans ce livre, Christian et Olga Baudelot, vous racontez... En fait, une greffe de rein, vous avez, Christian Baudelot, donné, on va parler de dons aujourd'hui beaucoup dans cette émission, vous avez donné l'un de vos reins à votre femme, Olga Baudelot, et c'est cette aventure à deux que vous racontez. Alors évidemment, je le disais, une psychologue, un sociologue, quand ils décident de s'associer pour faire ce récit, ils le font aussi en psychologue et en sociologue, et donc ces deux dimensions sont présentes. Et notamment la référence à Marcel Mauss qui m'a donné l'idée de vous inviter aujourd'hui précisément. J'avais envie qu'on parle de votre livre à la suite dans les idées, mais je trouve que ça tombe particulièrement bien. Comment, très très simplement, comment vous avez pris la décision d'écrire ce livre qui ne ressemble absolument pas à ceux que vous avez publiés précédemment ?
C'était une nécessité parce qu'on a senti, ma femme et moi, qu'on était engagés dans une aventure absolument extraordinaire et on a commencé à prendre des notes. Et puis on se disait que c'était quand même assez intéressant de mettre cette aventure sur la place publique parce que la greffe avec donneur vivant est très peu connue en France, peu pratiquée, hein, sur 100 greffes rénales il y a 10 seulement par donneur vivant, et très mal connue, et nous-mêmes nous l'avons appris au dernier moment alors que ma femme était dans un stade terminal, enfin je veux dire de fonction rénale. Et donc, comme vous le dites, on n'a pas pu s'empêcher aussi de réfléchir quoi, à ce qu'on faisait. Et ça a été l'objet un peu de ce livre, d'essayer de prendre de la distance et de comprendre. Et moi, j'ai toujours été frappé par le fait que la question du don est absolument centrale. Le mot don, dit don d'organes, etc., dans toutes ces histoires de transplantation. Et quand je passais des examens, quand j'en parlais à des amis, et je disais que je vais donner un rein, enfin, je passe des examens pour essayer d'être habilité à donner un rein à mon épouse, tout le monde me disait bravo, quel acte de générosité extraordinaire, c'est un don formidable, etc. Et ça ne correspondait absolument pas à l'expérience que j'en avais. C'est-à-dire que ça me semblait être une solution, une thérapie de salut, c'est-à-dire qui allait complètement détourner le cours du destin qui nous attendait, c'est-à-dire la dialyse, avec toutes ses servitudes pour la patiente, mais aussi pour son entourage. Et dans ce cas-là, si vous voulez, j'ai pensé que c'était égoïste. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles je n'ai absolument pas réfléchi dès que j'ai connu cette possibilité, c'est que ça m'arrangeait beaucoup. C'est-à-dire que je pouvais à ce moment-là revivre et continuer à vivre avec ma femme une vie comme nous l'avions vécue tant qu'elle n'était pas malade. Et donc il y avait un côté égoïste. Et si on réfléchit bien, si vous voulez, à la question du don et de savoir comment le don rend compte ou non de cette affaire de don d'organes, enfin, si en essayant d'appliquer Marcel Mauss à cette réalité, de deux choses l'une. Ou bien l'organe est prélevé sur un mort. Bon, dans ce cas-là, Philippe Stenner, qui a là une formule remarquable, il a dit le donneur est donné. C'est-à-dire que, je veux dire, d'abord la loi Caillavet, qui a été reprise dans la loi de bioéthique de 1994, stipule que le corps d'un mort n'appartient pas à la famille, mais à l'État. Bon, et donc, ces organes sont à la disposition de l'État. Alors, les médecins sont très courtois, ils demandent l'avis de la famille, ils s'y plient, c'est-à-dire que quand il y a un refus de la part de la famille de donner, enfin, je veux dire, de prélever un organe, ils s'y plient, enfin, ils ne font pas le prélèvement. Mais là, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement un don. C'est-à-dire que le donneur est donné. C'est la loi, et on a beaucoup plus affaire là à un cas de redistribution, comme l'impôt, c'est-à-dire que les organes, enfin, c'est extrêmement, la loi est extrêmement stricte, il y a des listes d'attente, le choix sur la liste d'attente, quand un organe est libre, se fait par ordinateur, c'est donc une instance extérieure qui décide que tel organe ira à tel receveur, en fonction, si vous voulez, de critères qui sont à la fois, je veux dire, d'ancienneté sur la liste d'attente, de proximité tissulaire, etc. Bon. Donc là, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un don, mais plutôt de quelque chose qui ressemble à la redistribution d'impôts. C'est l'État, et l'État, à ce moment-là, concentre les organes et les redistribue à ceux qui en ont besoin en fonction de la législation. Et dans le cas donneur vivant, ce qui était mon cas, le don, si vous voulez, ne s'applique pas vraiment dans la mesure... Enfin, nous, on a dit que c'était plutôt une mutualisation. C'est-à-dire que la loi actuelle, en France, restreint le périmètre donneur de receveur, enfin, c'est-à-dire on a le droit de donner l'un de ses organes, surtout les reins, uniquement à des membres de sa famille. Alors, c'est-à-dire à ses parents, les parents à leurs enfants, le frère à la sœur à la frère, les tantes éventuellement, et oncle et conjoint. Et le conjoint, c'est tout récent, c'est 2004. Bon, et donc nous, on a profité de cette possibilité-là, et si vous voulez, je vous disais tout à l'heure que c'était égoïste, mais c'est plutôt le sens d'une mutualisation, c'est-à-dire que ma femme et moi, on vit ensemble depuis très longtemps, on s'aime beaucoup, et on a toujours mis tout en commun, aussi bien les comptes chèques, la voiture, l'appartement, etc. On n'a pas de comptes séparés, etc. Bon, et donc là, c'était une façon, si vous voulez, j'avais un organe qui ne servait à rien puisqu'il était en double, je le verse au pot, il en avait besoin, etc. Et c'est donc beaucoup plus, si vous voulez, l'histoire d'une mutualisation. Et donc, en tous les cas, dans ce premier temps, je pensais que la question du don était vraiment une mauvaise façon...
Formulation.
Oui. Alors, elle se comprend. Parce que l'obsession des législateurs, de tous les organes de bioéthique, etc., c'est de lutter contre le trafic, hein, c'est-à-dire contre la monétisation, etc. Et donc, à ce moment-là, ils sont obligés, je voulais, de couvrir, de magnifier le caractère désintéressé du don pour le rendre acceptable et surtout l'opposer fondamentalement à son envers, qui est le trafic.
Alors, du coup, quand vous dites à un moment que vous êtes confronté de façon très pratique à cette situation qui semble pas coller avec l'enseignement de Mauss que vous avez pendant des années professé à vos élèves, et comment on fait quand on est dans cette situation dans une attitude réflexive par rapport à ce qui est en train de vous arriver à vous-même, et en même temps avec dans quelle mesure ces textes, ces réflexions antérieures sont des ressources pour...
Oui, à la fois c'est des ressources et en même temps on oublie tout. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai enseigné, et avec un plaisir énorme, l'essai sur le don à des générations d'étudiants à Lille, à Nantes, à Paris, etc. Et j'avais complètement oublié une chose que j'avais vraiment enseignée, c'était qu'il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Bon. Et si bien que quand j'ai pris ma décision de donner ce qui s'est fait en un instant, c'est-à-dire que j'ai absolument pas réfléchi, dès que j'ai su cette possibilité, j'ai bondi dessus, Et j'étais plein d'enthousiasme, je trépignais de joie à l'idée qu'on allait pouvoir en sortir. Ma femme a été très réticente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout accepté. Et elle a mis très longtemps, elle a mis 2 mois à se faire à l'idée et à accepter. Et là, on a eu purement et simplement, j'ai compris progressivement que ben, moi, ça avait raison, c'est-à-dire, mais là, je l'ai complètement oublié.
Alors, je disais tout à l'heure, ce livre ne ressemble pas à ceux que vous avez écrits précédemment. Vous avez choisi le parti d'un récit très, très simple, au fond, très factuel. Évidemment, vous parlez du ressenti, des différents moments, de la façon dont les choses évoluent. Mais moi, j'ai le sentiment d'un souci avant tout pédagogique. Vous disiez tout à l'heure, on connaît très mal cette question du don d'organes à partir de personnes vivantes. Et donc, on sent, est-ce que c'était ça le sens de votre démarche, d'essayer d'expliquer, de faire en sorte qu'on en parle mieux et davantage?
Oui, alors il y a cette dimension-là, le côté pédagogique, mettre les choses sur la place publique, informer, puisque les gens sont très mal informés de cette situation-là. Il y avait aussi un souci, si vous voulez, d'analyse, d'accompagner un peu notre aventure par une analyse. Et puis, il y avait un côté aussi, c'est beau, je veux dire, comme histoire. Enfin, je veux dire, ça ne vous laisse pas indifférent. C'est-à-dire, c'est une expérience extraordinairement forte. Et elle a marché. Et donc, on est assez content aussi, après, d'en faire part, je veux dire, aux gens, de dire que c'est quelque chose qui réussit et que ça transforme complètement aussi les gens, puisque on détourne au dernier moment un peu le cours du destin en rendant une vie, en restaurant une vie normale, quoi.
Ça veut dire que ce livre, vous l'avez d'abord écrit pour vous sans nécessairement imaginer de le publier, ou c'était simplement des notes dans un premier temps ?
Non, au début, on a pris des notes. Et puis, on s'est dit quand même, c'est intéressant. Je veux dire, ça vaut le coup. Il n'y a pas de choses là-dessus. On n'a rien lu. Et que nous, on a été obligés de grappiller l'information à mesure sur Internet, dans les différents sites, etc. Et il n'y avait pas de données d'ensemble. Donc, on s'est dit, c'est quand même assez important.
Même une chose incroyable, c'est-à-dire que c'est presque au dernier moment. Enfin, pas au dernier moment, mais vous apprenez tardivement qu'il n'y a pas de problème de compatibilité, contrairement à ce que vous entendez dire, y compris pris par des médecins d'ailleurs, et donc là il y a un problème de circulation de l'information.
Oui, alors il y a, à la décharge des médecins, on peut dire aussi que l'évolution, enfin si vous voulez, de la médecine et de cette médecine de pointe est tellement rapide que très peu, s'ils ne sont pas vraiment dans la partie, peuvent être au courant de tout. Et en particulier, pendant très longtemps, si vous voulez, on pensait que les problèmes de compatibilité étaient fondamentaux, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y avait que des jumeaux homozygotes avec lesquels on pouvait greffer. Et puis, ils sont aperçus au bout d'un moment que le rejet était la loi. Bon. Et donc, tout corps étranger introduit dans le corps d'un autre ne demandait qu'à s'en aller le plus vite possible, enfin en prenant son temps aussi. Et donc, ils ont à ce moment-là compris qu'il fallait lutter contre le rejet, baisser les défenses. Et maintenant, si vous voulez, depuis que ça nous est arrivé, ça a encore évolué. C'est-à-dire qu'avant, en 2007, le problème du groupe sanguin était fondamental, l'appariement entre les deux groupes sanguins. Et maintenant, ils sont en train de faire des greffes sans compatibilité avec le groupe sanguin.
Alors, dans les mêmes semaines où votre livre a paru, donc Une promenade de santé aux éditions Stock, livre de Christian et Olga Baudelot, est sorti sur les écrans le film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, où au cœur de ce film, au cœur de ce récit, au cœur de cette famille, il y a à nouveau une greffe. Vous l'avez vu,
Christian? Absolument, Baudelot. Je l'ai vu et j'ai vraiment vibré à voir ce film parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Alors c'est une greffe assez particulière, c'est une greffe de moelle osseuse, où là, les conditions nécessaires, si vous voulez, de compatibilité sont extrêmement strictes. Bon. Et que d'autre part, les risques, à la fois pour le donneur, enfin surtout pour le receveur et le donneur aussi, sont très très forts. Bon. Et donc, la famille étudiée par Desplechin est assez particulière, enfin, il y a les conflits énormes, etc. Et néanmoins, moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'on voit tous les enjeux de pouvoir, les relations que peuvent avoir. Alors, il y en a qu'un qui est compatible, c'est le fils. Et le fils est haï par sa mère et il hait sa mère. Bon, et la sœur, qui est au contraire bien vue, etc., elle n'est pas compatible. Bon, et donc là, il y a une analyse psychologique extraordinairement fine du pouvoir que peut acquérir, justement, là on revient à Mauss, le donneur dans le cadre familial et auprès des autres. Et je trouve que c'est admirablement vu.
Mais je sais, pour en avoir parlé avec lui, que Desplechin a lu et relu Marcel Mauss pour préparer son film, bien évidemment. Merci Christian Baudelot. Vous restez avec nous pour parler, vous l'avez compris, de Marcel Mauss dans le dossier de la suite dans les idées aujourd'hui. Quinze jours après l'oncle Émile Durkheim, le neveu, donc aujourd'hui Marcel Mauss, au programme de la suite dans les idées. On parlait de Durkheim il y a 15 jours avec Marcel Fournier qui vient de publier une biographie de Durkheim. Là, il préface un livre dont nous allons parler aujourd'hui, Marcel Mauss, savant et politique, de Sylvain Dzimira, qui paraît aux éditions La Découverte. Pour en parler avec l'auteur qui est chercheur associé au Sophia Paul, un laboratoire de l'Université Paris 10 Nanterre. Philippe Chagnal qui enseigne et maître de conférence à Paris Dauphine, qui est aussi le secrétaire général du Mauss, à ne pas confondre avec Marcel Mauss, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Enfin, il y a un rapport.
À ne pas confondre, faut voir.
Voilà, on va expliciter la relation entre Marcel Mauss et ce mouvement anti-utilitariste, le Mauss, qui publie régulièrement, deux fois par an, une revue, la revue du Mauss. Également autour de la table, Philippe Stenner, qui est professeur de sociologie à l'Université Paris 4, et qui, entre autres sujets, objet d'études, de travail sur le don d'organes. Je crois qu'il prépare un livre sur la question. Et puis Christian Baudelot qui reste avec nous autour de la table. Alors, Sylvain Dzimira, ce livre « Savant et politique », on comprend évidemment tout de suite le clin d'œil au livre célèbre, aux deux conférences réunies sous forme de livre de Max Weber. Vous le dites pas tout à fait dans ces mots-là, mais si je vous ai bien lu au début, au fond, que Marcel Mauss propose, pour penser la relation entre la science d'un côté, la politique de l'autre, une troisième voie à celle proposée par Weber et par Durkheim. C'est-à-dire, on pourrait dire au fond, Weber dit d'un côté la science, de l'autre la politique. Durkheim, lui, ce serait plutôt d'abord la science, puis la politique. Et puis, pour Mauss, ce serait la science et la politique ensemble, en même temps.
Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est une position épistémologique particulière, donc souvent condamnée. Ceux qui la soutiennent ne sont pas les bienvenus dans la communauté des sociologues en général. Mais avant de parler de mon ouvrage, moi, j'aimerais revenir sur les propos de M. Baudelot. On peut y fixer donc, les grands traits d'un débat théorique important sur le don. Donc, j'étais très touché par votre histoire, mais je voudrais d'abord me focaliser sur la dimension théorique de votre conception du don. Alors, vous avez dit, en fait, vous ne voyez jamais le don. C'est-à-dire que lorsque l'on prélève sur un mort, en fait, vous dites qu'il n'y a pas de don, puisqu'en fait, c'est voulu par la loi, c'est rendu obligatoire par la loi. Et cette obligation, donc, supprime la liberté consubstantielle au don. Le don, il n'y a de don que libre. Je ne crois pas, parce que, vous l'avez dit vous-même, en fait, on conserve la possibilité à la famille de donner ou pas le don. Donc la loi ne retire en rien la liberté de donner. Alors évidemment, ce n'est pas le mourant. D'ailleurs, le mourant, enfin, la personne décédée peut très bien l'avoir donné, mais la famille, en tous les cas, accepte de donner. D'accord. Et d'ailleurs, donc, elle le fait librement. Et on pourrait également s'interroger sur le fait de savoir si elle le fait également parce qu'elle ne se sent pas obligée de le faire. Non pas par la loi, mais parce qu'il est obligatoire de donner, comme nous dit Mauss, pour faire continuer la vie, tout simplement. Alors, moi, je n'y vois pas la redistribution, mais j'y vois du don. Ensuite, également, dans la relation entre transplantation d'organes, entre vivants. Vous dites, il n'y a pas de don, mais il y a de la mutualisation. Votre argumentation donc, consiste à dire, en fait, parce que moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très intéressé. Et ce qui suppose que le don ne serait que purement désintéressé. Or, ce n'est pas la conception de Marcel Mauss du don. Marcel Mauss nous dit, le don, c'est quelque chose à la fois intéressé et désintéressé. Donc, il faut comprendre comment s'articulent dans le don ces quatre dimensions que sont la liberté, l'obligation, l'intérêt et le désintéressement. Donc moi, dans les deux cas, en fait, j'y vois quand même du don. Alors évidemment, on y retire un intérêt, on dit « moi, je l'ai fait parce que j'aime ma femme », mais on voit bien justement que le fond de l'histoire, c'est une histoire d'amour. Et bon, je ne pense pas que l'amour soit égoïste, même si évidemment, on y retire un intérêt. J'avais intérêt à ce que mon épouse survive pour pouvoir continuer à vivre avec elle, et je l'aime. Donc moi, j'y vois du don partout, en fait, dans cette histoire-là. Donc à la condition, évidemment, de dire que donc de ne pas concevoir le don comme un acte unilatéral d'une personne envers une autre, mais comme la triple obligation de donner, recevoir et rendre.
Christian Baudelot.
Oui, c'est dans le cas avec les donneurs décédés, la famille, si vous voulez, la loi, impose, le fait que un organe, si vous voulez, un corps décédé appartient à l'État. Mais l'usage de cette loi est différent, c'est-à-dire que les médecins sont très respectueux. Mais c'est un usage, bon, et qui est souvent pas toujours pratiqué. Donc, et qu'est-ce qu'ils donnent à ce moment-là à la famille ? Ils donnent un consentement. Ils ne font pas autre chose, ils ne donnent pas un organe, ils donnent un consentement, ou ils donnent un refus, ils refusent de refuser, quoi, c'est ça. Donc là, je trouve que, on peut en discuter, mais, et sur la question de l'organe avec vivant, bon, vous avez tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que la conception du don, chez Marcel Mauss, elle est tellement élastique et polysémique qu'on peut lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Et il y a une édition nouvelle, qui a été une réédition de l'essai sur le don qui a été faite au PUF dans la collection Quadrige, avec une préface que je trouve remarquable de Florence Weber, où elle fait un peu le point sur tout ce qui est nouveau depuis la publication de cet ouvrage, depuis la préface de Lévi-Strauss en 1950, tous les commentaires qui ont été faits sur ce truc, et elle montre, elle relativise, et elle montre qu'en fait, le don, c'est très très dangereux de parler de don, et que c'est polymorphe.
Alors, vous avez raison,
Sylvain,
parler de la dangerosité du don. D'ailleurs, je voudrais signaler un livre qui a été publié par Le Mauss, rédigé par Jacques Godbout, sociologue canadien, qui s'intitule « Le don le titre, « Le don, la dette et l'identité ». En fait, il évoque un peu les problèmes que vous soulevez, notamment celui de la dangerosité du don. Effectivement, alors, c'est aussi une dimension du don maussien, c'est que le don, donc, c'est pas quelque chose de gentillet, c'est quelque chose qui peut être dangereux. D'ailleurs, l'expression commune « faire un cadeau empoisonné » donc le traduit bien. Et Jacques Godbout, en fait, traduit bien que, effectivement, que ce qui se joue dans le don, et notamment dans le don d'organes, ce sont des questions d'identité. Alors, on le voit très bien à l'occasion du don d'organes, mais on peut le voir à l'occasion d'un don d'une chose. C'est-à-dire qu'évidemment, là, on va donner quelque chose de soi, et qui va aller dans le corps d'un autre. C'est-à-dire que l'autre est dans moi. Donc on voit bien qu'ici, il y a des questions d'identité qui sont importantes, d'ailleurs, qui interrogent notre propre conception de l'identité occidentale, hein. Dire que l'autre est dans moi, bon, c'est pas courant dans la philosophie occidentale. Et Jacques Godbout nous montre qu'en fait, ça pose des problèmes identitaires au receveur, qui fait que souvent, il le refuse. Et que la greffe prend quand, en fait, l'autre accepte qu'une partie de l'autre est en lui. Dès lors que il y a un refus, hein, ou que cette modification d'identité donc, est refusée, parfois la greffe ne prend pas.
Bon, alors on a commencé cette émission par ce livre, et on rentre dans l'œuvre de Mauss, dont j'aimerais qu'on parle plus largement à travers cette question, qui est un prisme intéressant, parce qu'on va le voir, Sylvain Dzimira fait de l'essai sur le don, finalement, comme beaucoup de commentateurs de Mauss, l'œuvre absolument clé, même si cette œuvre est protéiforme, qu'il faut le rappeler, Mauss n'a jamais écrit un livre, il a écrit beaucoup d'articles, à la fois des articles scientifiques, l'essai sur le don est d'abord une contribution à l'année sociologique, mais aussi des articles politique. Il a été journaliste à l'Humanité à une époque où on pouvait mener de front tout ça, et beaucoup plus engagé qu'Émile Durkheim. Mais pour rester un instant sur cette question sur la façon dont on l'a prise en démarrant par le récit de Christian Baudelot, Philippe Stenner, vous travaillez donc vous préparez un livre sur la question du don d'organes.
Tout à fait, parce que c'est un sujet auquel je suis venu par Marcel Mauss, ça ne surprendra pas. Mais d'une manière un petit peu différente, au sens où mes amis ici du mouvement du Mauss vont certainement réagir. Je trouvais que le mouvement du Mauss ressassait trop, si je puis le dire ainsi, la Kula, le Potlatch, ces vieux exemples sur lesquels Mauss était inspiré, entre autres. Et que je pensais qu'il pouvait être intéressant de mettre à l'épreuve Marcel Mauss sur des objets qu'il ne pouvait pas avoir connus, puisqu'il est mort au milieu des années 50 et que la première greffe réussie, c'est 1953-54. Donc c'est vraiment trop tard pour qu'il y puisse y penser. Et là, essayer d'étudier effectivement sur le, une chose vraiment récente, les idées de Mauss. Alors, j'ai lu bien évidemment l'ouvrage de Christian Baudelot et d'Olga Baudelot avec un grand intérêt, justement pour cette dimension de réflexivité, la fameuse formule que tu emploies, le réinsérien et puis le retour que tu dois faire sur toi-même après, ensuite, lorsque la greffe a eu lieu, etc., était quand même, je crois, très intéressant. Mais pour revenir à Mauss et à la question qui est soulevée par l'ouvrage de certaine façon que vous avez déjà évoquée ici, c'est, je crois, il faut être très attentif, comme Mauss l'a toujours été. Mauss, c'est quelqu'un qui a étudié la technique, les techniques de corps, par exemple. C'est un article très, très important, me semble-t-il, de son œuvre. Et je crois que dans son travail sur la magie, sur le sacrifice, sur le don, il faut être très attentif à ce que les Durkheimiens appellent la morphologie. C'est-à-dire, qui est là? Qui fait quoi? À quel titre et pour quelle raison? Il y a toute une description très simple que l'ouvrage justement de Christian et Olga Baudelot fait apparaître. On ne donne pas comme ça, il faut passer devant des comités d'éthique, il faut passer devant, il faut passer de nombreux examens, etc., pour s'assurer que le don ne va pas être mortel si jamais l'autre rein ne fonctionnait pas, etc., etc. Et donc je crois qu'il faut être très attentif à ce genre de choses. Et une fois qu'on regarde l'affaire un peu en détail, ma position personnelle est appuyée, disons, sur les débats des années 60, donc le tout début des transplanteurs. Est-ce que c'est un don ou un sacrifice? Et du point de vue maussien, je dirais que, et je dis bien du point de vue de Marcel Mauss, je pencherai plutôt sur la notion de sacrifice, pour une raison très simple. C'est qu'une des différences entre le sacrifice et le don, c'est que dans le sacrifice, il y a toujours un opérateur technique. Celui qui fait le sacrifice, le sacrificateur, et qui doit respecter un certain nombre de choses pour ne pas profaner la chose sacrée, la personne qui va être opérée, alors qu'elle, a priori, n'a pas besoin d'un acte thérapeutique. Et ensuite, on va transplanter l'organe prélevé sur un corps malade. Et cette personne technique, cet opérateur, en quelque sorte, je pense, ne peut pas être négligé, alors que dans le potelage, la coula, etc., on a des affaires qui se font entre égaux. Et donc là, il y a, je crois, à la fois une question qui est posée à Marcel Mauss, est-ce que ce qu'on appelle le don d'organes rentre dans cette théorie du don? J'ai des réticences, et beaucoup de gens ont des réticences d'un point de vue analytique à cela. La notion de sacrifice me paraît peut-être plus intéressante, et peut-être couvrir d'une certaine façon l'engagement très fort des individus, soit à accepter, soit à recevoir un organe.
Philippe Chagnal, on ne vous a pas entendu encore. Pour vous, à quel concept maussien, au sens de Marcel Mauss, donc on peut rattacher le don plutôt, le don d'organes plutôt à la notion de don ou à celle de sacrifice, comme vient de le proposer Philippe Stenner?
Non, c'est vrai, une question très intéressante. Dans l'ouvrage que j'ai coordonné récemment, il y a un article d'Isabelle Marin, qui est médecin, qui s'occupe du service de soins palliatifs à Saint-Denis, qui est consacré à la question du cancer, où elle pose cette question. Sur le traitement du cancer, est-ce qu'on est dans la logique du don ou dans la logique du sacrifice? Et on est dans les deux à la fois, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire, comme quoi est générée socialement une obligation de donner. Il faut leur donner quelque chose aux malades. Il y a un besoin effectivement fortement ressenti des deux côtés, du côté des patients et à la fois des médecins. Il faut faire quelque chose, il faut leur donner quelque chose, des traitements. D'où ces formes d'acharnement thérapeutique absolument terribles. Et elle essaie de montrer comment cette logique du don, parce que cette obligation du don est absolument fondamentale, peut conduire à des logiques sacrificielles. Et je crois que poser les choses de ce point de vue-là, avec une certaine forme de continuité, me paraît vraiment importante. Parce que si on rabat systématiquement don sur sacrifice, dans le cas du don d'organes, bien sûr, il y a des éléments que vous avez évoqués, des éléments rituels, on pourrait dire, il faut la personne du sacrificateur, etc., etc. Je pense que c'est important, mais en même temps, ce que l'on risque d'évacuer, et je crois qu'on aurait tort de le faire, c'est qu'on est dans la logique du don parce qu'on est dans une logique d'une certaine mutualité. Vous avez appelé le terme de mutualisation en disant, dans le cas du don entre vivants, je veux me réinscrire ou laisser perdurer une logique de mutualisation qui est au cœur de la relation amoureuse, etc. Dans le don, ce qui est passionnant, et même dans le don d'organes, c'est ce qu'évoquait Sylvain à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une violence du don, il y a une dangerosité du don identitaire, c'est-à-dire cette identification du receveur au don qu'il a reçu. Eh bien, comme montrent un certain nombre d'enquêtes, notamment les enquêtes de Jacques Godbout, une façon de sortir de cette blessure identitaire qui peut mener justement à la mort, la question de savoir est-ce que le don prend à la fois son sens physique, physiologique et dans son sens symbolique, eh bien souvent les personnes interrogées se sortent de ce don unilatéral d'un certain point de vue, terrible. Vraiment la figure du don empoisonné auquel a priori on ne peut rien rendre parce qu'on donne la vie. Bon, eh bien, la façon dont les personnes recevant ce type de greffe ont pu réagir, c'est justement de se percevoir dans une logique, non pas d'endettement négatif, je suis endetté à vie, il m'a tout donné, etc., je suis écrasé par ce don, mais dans la possibilité de pouvoir donner à son tour. Hein, donc une logique non pas d'endettement négatif, mais d'endettement positif. Et de ce point de vue, la distinction des vivants et des morts, comme Sylvain l'a rappelé, n'est pas la plus pertinente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va circuler à nouveau grâce à ce don-là ? Et cette logique de mutualisation, elle est au cœur de la relation. C'est-à-dire que le don que vous avez fait va permettre justement à la relation de perdurer, va permettre à ce que ces cycles de dons mutuels qui soudent votre relation ne soient pas interrompus. Donc de ce point de vue-là, je plaide évidemment pour l'interprétation du point de vue du don. Mais le don peut effectivement basculer du côté du sacrifice, parce que le don n'est pas gentillé, parce que le don est quelque chose d'éminemment dangereux.
Avant peut-être que vous élargissiez la question et que vous voyez Marcel Mauss dans son œuvre plus largement, j'aimerais vous poser une question à tous les quatre, parce que en vous entendant, je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre débat de bioéthique qui a lieu en ce moment même, qui est le débat concernant la légalisation ou pas des mères porteuses. Et dans ce débat-là, on retrouve la question du don au final, c'est-à-dire est-ce qu'on donne l'enfant qu'on a porté, et je pense en particulier à ce que vous avez dit, Sylvain Zimira, sur les problèmes d'identité que ça peut poser. C'est-à-dire ça pose une question d'identité à la mère qui a porté le bébé, ça pose des questions d'identité à l'enfant derrière. Est-ce que là aussi on peut parler du don au sens maussien du terme, ou est-ce qu'on est dans une toute autre question ? Sylvain Zimira.
Je n'ai pas trop d'avis là-dessus, mais ce que je crains, c'est que cette loi, en fait, elle favorise la marchandisation de la vie, hein, au-delà de la favorisation, enfin de l'émergence du don. Donc au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'on est là en face d'un danger important. Mais bon, ce serait creusé, hein.
On n'a pas l'impression que, justement, l'œuvre de Mauss, tous ces concepts, soient des ressources tellement utilisées pour penser ce débat. Bon, ce débat qui s'ouvre, ce matin, Ali Badou recevait notamment Jean-Claude Amezen sur cette antenne pour en parler. Et Amezen rappelait qu'on est au début de cette réflexion, en tous les cas formelle, du côté du Comité national d'éthique en particulier. Mais on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'on entend beaucoup de psychologues, mais on entend assez peu, finalement, recourir à des concepts comme je sais pas, c'est surprenant, non ? Philippe Chagnal ?
Ça renvoie à ce qu'évoquait Philippe Stenner, c'est-à-dire que si Mauss a de l'intérêt aujourd'hui, c'est dans la mesure où on peut le tester sur des objets qu'il n'a pas connus. Je crois que ce pari-là, ce test-là, est un test absolument fondamental. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à la revue du mot, c'est-à-dire essayer d'aller chercher du don où manifestement on pense qu'il n'y en a pas. Aller le chercher dans les relations de travail, par exemple, dans le monde de l'entreprise, le monde du profit, etc. Bien, montrer effectivement dans quelle mesure une entreprise ne peut fonctionner véritablement que si glisse, on pourrait dire, une part de gratuit, hein, du something for nothing, pas simplement du donnant-donnant. Hein, et on peut le voir dans les champs les plus variés. Et ça, je crois que c'est un test absolument fondamental pour évoquer la vertu heuristique du don. Parce que je crois que le regard du don, et s'il permet de poser des questions bioéthiques, montre qu'il a bien, de ce point de vue-là, sa pertinence, c'est qu'il nous enjoint à saisir le social d'un point de vue systématiquement relationnel. Et je crois que ça, c'est une idée absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des entités figées, l'individu, la société, on a quand même beaucoup vécu en sociologie dans cette mise en scène-là, hein, il permet justement, au contraire, d'étudier de la façon la plus scrupuleuse possible ce qui circule entre les hommes, la signification de ce qui circule entre les hommes. Et donc, on peut, à partir de cela, en tous les cas, c'est des tentatives que nous avons faites les uns et les autres, établir une sorte de type idéal de la relation humaine que l'on ramasse à partir du modèle du don. Et ensuite, on va pouvoir comparer ce type de relation à d'autres types de relations sociales qui en sont différentes, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que tout est don, hein, qui en sont différentes, mais à la fois dont on retrouve certains éléments. Comment bascule certains éléments ? Comment on passe du don à l'échange, au donnant-donnant ? Comment on passe du don à la domination ? Comment on passe du don à la violence, par exemple sur le registre de la vengeance ? Hein, je crois que l'apport fondamental, me semble-t-il, d'une sociologie par le don, c'est de soulever des questions, d'aiguiser un autre regard. Je trouve que de ce point de vue-là, il y a en sociologie une sorte de non pas de cécité, ça serait sévère, mais une difficulté à voir ce qu'on a sous les yeux. Du don, il y en a partout. Hein, donc il faut essayer de le structurer et pas simplement de rentrer dans ce débat moral duquel on est totalement prisonnier, qui consiste à identifier systématiquement le don à l'altruisme, donc à la charité, donc des choses trop normatives, laissons ça aux philosophes, ou alors le don comme une sorte de vestige de période passée et laissons ça aux anthropologues.
Ou alors comme un concept qui s'applique à certains, au tiers secteur ou à l'économie solidaire, oui. C'est-à-dire quelque chose qui est en marge du système capitaliste, par exemple. D'où le titre de ce livre dont vous parliez tout à l'heure, La société vue du don, manuel de sociologie anti-utilitariste appliquée. Alors anti-utilitariste, ça rejoint donc ce mouvement qui s'appelle Mauss, pas par hasard, donc en référence aussi à Marcel Mauss. Et l'idée étant d'observer à travers ce prisme dans lequel le don joue un rôle important différents faits sociaux. sociaux, et y compris ceux qui sont a priori pas du côté de la gratuité, de l'altruisme. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu le débat, effectivement, comme le rappelait Caroline, à Marcel Mauss, à la dimension politique, parce qu'au fond, c'est évident que cet essai sur le don est la pierre angulaire de l'œuvre de Mauss, et en même temps, peut-être que d'une certaine manière, elle cache aussi d'autres dimensions du travail de Mauss, en tous les cas jusqu'à la publication au milieu des années 90 de ses écrits politiques, qui étaient assez méconnus. Je le rappelle, il n'y a pas de livre formalisé par Mauss, mais il y a une série d'articles très, très, très importantes sur de nombreuses années, sur la vie publique, sur la politique, des articles engagés aussi. Dans quelle mesure il y a un lien entre ce dont parlait Christian Baudelot tout à l'heure, c'est-à-dire la répartition, la mutualisation, et puis les formes de socialisme, au fond, qu'a pu inventer ou chercher à faire émerger Marcel Mauss, Sylvain Zimira?
Et alors, c'est l'objet de mon ouvrage. Alors, il a jusqu'à maintenant été beaucoup question de la dimension positive du don. Hein, qu'est-ce que c'est que le don? Est-ce que la transplantation relève du don, etc.? Mais en fait, l'œuvre de Mauss, pour moi, elle est indissociablement à la fois positive et normative. Comme l'était d'ailleurs l'œuvre du Durkheim, mais à sa manière, probablement d'une manière différente. Je rappelle ce que disait Durkheim de la sociologie, qu'elle ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'avait qu'un intérêt spéculatif. Et Mauss, en fait, s'est engagé très tôt dans le socialisme qu'aujourd'hui on appelle associationniste, dans la défense du mouvement coopératif à l'époque, dès la fin du 19e siècle, lorsqu'il était étudiant. Et on perçoit, en fait, ces deux dimensions de son œuvre de manière très éclatante dans son essai sur le don, qui se termine par des conclusions de morale et de politique. Alors, tout à l'heure, vous disiez, Philippe Steiner, qu'on ressassait trop, donc que le Mauss, donc le mouvement anti-utilitariste dans les sens social, ressassait trop, en fait, tous ces phénomènes de potlatch, etc. Mais en fait, c'est important pour comprendre quel était le projet de Mauss dans son essai sur le don. Son projet, c'était de repérer en scientifique la possibilité d'une morale universelle qui serait, donc pour lui, qui est contenue dans le don. Le don étant lui-même un phénomène universel, et à partir de cette morale universelle, essayer d'étayer donc un projet politique pour ses contemporains. Donc, mais pour montrer cette universalité du don, il faut bien s'intéresser encore aujourd'hui donc au don ailleurs que chez nous. Voilà. Alors c'est effectivement ce qu'il a tenté de faire. Alors ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que tous ces positionnements politiques peuvent être étayés sur la morale du don telle qu'il le comprend dans son essai sur le don. Et que son œuvre académique pouvait se comprendre à la lumière de son œuvre politique et réciproquement. Or, pour dire les choses très simplement, donc Mauss a défendu très tôt le pacifisme, était un socialiste et un démocrate. Ces trois dimensions de ces combats politiques, en fait, peuvent se tenir, je pense, donc sur la morale du don.
Dans une transition que vous qualifiez de possibiliste, en reprenant un terme de la fin du 19e.
C'est ça. Alors, pour l'opposer,
en fait...
une forme
de réalisme.
Oui, si l'on veut, c'est pour s'opposer en fait au caractère révolutionnaire donc de l'action que doit être entreprise selon les marxistes, hein, qui pensaient qu'on pouvait tout détruire pour tout reconstruire. Mauss, en sociologue d'ailleurs, conscient que les phénomènes historiques sont construits, eh bien considère qu'on ne peut pas tout détruire pour tout reconstruire et qu'il faut bien composer avec la réalité sociale historique. Alors sur son pacifisme, pour dire les choses assez simplement, donc s'allier par le don. C'est considérer que la paix et la vie valent mieux que la mort et la guerre. Donc cette position-là, on la retrouve dans son pacifisme. Sur son socialisme, en fait, le don traduit une certaine générosité, on pourra en discuter longtemps, qui n'est pas une générosité toute gentillette, puisque parfois elle est teintée d'agone et de conflit, etc. Qu'est-ce que le socialisme, sinon une invitation à se faire plus généreux? Donc une nouvelle fois, on peut étayer donc, le socialisme sur la morale du don. Et puis enfin, son plaidoyer pour un socialisme démocratique qui s'appuierait sur les mouvements coopératifs et sur les associations, on le voit où? Tout à l'heure, vous le disiez très bien, Philippe Steiner, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister, mais je vais revenir quand même. Dans le don, nous dit Mauss, en fait, il explique le don comme une lutte de générosité. Donc il y a bien des phénomènes conflictuels dans le don. Autrement dit, le don, en effet, est une morale de la concorde sur le mode de la discorde. On s'allie tout en rivalisant, et en rivalisant de générosité. Et Mauss le traduit très bien à la fin, dans la conclusion de son essai sur le don, lorsque ces Indiens d'Amérique du Nord, entre autres, ou les Troubillons, donc du Pacifique Sud, s'allient, ils s'opposent, ils manifestent, ils savent s'opposer sans se massacrer. Donc qu'est-ce qu'un démocrate, sinon quelqu'un qui sait s'opposer sans se massacrer? Donc on a là dans le nom un éthos démocratique qu'on retrouve dans son plaidoyer pour un socialisme démocratique qui refuse la violence et la révolution marxiste telle que la défendaient donc les bolcheviks de l'époque. Mauss, j'aurais continué, Mauss a été l'un des tout premiers et fervents critiques du bolchevisme et de la révolution marxiste telle qu'elle s'est mise en place donc, dans l'ex-Union soviétique.
Il avait pour projet un livre sur la question qu'il a jamais achevé.
Oui, sur la nation. Enfin, il a écrit quand même très explicitement des articles qui s'intitulent « Critique du bolchevisme », où là, on voit explicitement sa condamnation. Donc, de quoi ? Sa condamnation de l'idée qu'on puisse bâtir quelque chose sur la violence. Alors ça, c'est l'idée centrale. Et c'est la raison pour laquelle également le don est pour nous important. C'est que rien ne peut s'entreprendre en commun qui ne soit commun. Or, le commun, pour nous, repose sur le don. Rien ne peut s'entreprendre, même dans le domaine économique. Mauss l'écrit très bien, il dit finalement, avant de pouvoir commercer, il a fallu savoir poser les lances, il a fallu savoir s'allier avec ses adversaires. Comment s'allie-t-on avec ses adversaires ? Par le don. Le don précède, logiquement et ontologiquement, le marché. Mais pas que le marché.
Alors, il y a cette formulation d'un chapitre intrigante, Mauss anti- et pro-capitaliste.
Oui.
Sur la question du marché.
Alors ça, j'ai essayé de le développer. Bon, la position du rapport à Mauss au capitalisme, elle est pas facile à cerner, parce que sa définition du capitalisme, il n'en donne jamais. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas qu'il comprenne le capitalisme comme le comprennent les marxistes à l'époque. À mon sens, il comprend le marxisme d'une manière assez weberienne, en opposition à ce qu'il a au socialisme. Pour lui, le socialisme, c'est une manière de voir, alors pareil, c'est pas toujours très clair, de voir, de penser et d'agir d'une certaine manière qu'il a du mal à qualifier à la fin des années 1800. Cette manière, pour moi, c'est cette manière de voir sous l'angle du don. Donc il s'agirait plutôt pour lui de qualifier l'esprit du socialisme, qui est l'esprit du don, pour moi, qu'on perçoit dans la conclusion de son essai sur le don. Par opposition, l'esprit du capitalisme, pour moi, ce serait l'utilitarisme chez lui, auquel il s'oppose. Alors, il est anticapitaliste au sens où il souhaite que l'intérêt régisse moins qu'il ne le régit, donc le monde dont il est contemporain. Et donc, il fait la promotion de toutes les institutions qui peuvent porter l'esprit du don, notamment les coopératives, notamment de consommation. Donc là, il est explicitement anticapitaliste. Au début de sa vie, en fait, il souhaite que les coopératives de consommation notamment, mais de production aussi, dans une moindre mesure, se substituent à terme donc, aux entreprises de type capitaliste. Cette position, en fait, il va l'abandonner assez rapidement et considérer d'ailleurs à la lumière de ses travaux anthropologiques où il constate que finalement ont toujours coexisté différents types de droits et d'économies, qu'il n'est pas réaliste de vouloir éradiquer l'économie de type capitaliste, puisque finalement toutes les formes de circulation des marchandises ont toujours coexisté. Il est plus... il est même plus souhaitable d'envisager une coexistence des types d'économies avec d'un côté donc, des entreprises de type capitaliste et puis de l'autre des coopératives de consommation sans toutefois là, peut-être que je le présente de manière un peu trop scindée. En fait, il envisage la possibilité d'une coopération entre les coopératives de consommation et les entreprises de type capitaliste. L'objectif, ce serait de limiter autant que faire se peut la course au profit des entreprises de type capitaliste par un contrôle par les coopératives de consommation qui s'exerceraient sur les entreprises. Après, la deuxième dimension de la réponse, c'est en quoi il est pro-capitaliste. Eh bien, en fait, je viens de le dire, c'est quand il n'envisage pas l'éradication totale de cette éthique d'accumulation. Simple. Il faut bien accumuler des richesses pour les redistribuer. Il faut savoir thésauriser pour dépenser. C'est ce qu'il écrit explicitement dans son essai sur le don.
Alors en vous entendant, on comprend mieux pourquoi Marcel Fournier, dans sa préface, avoue qu'il espérait, en publiant les écrits politiques de Mauss au milieu des années 90, que ça puisse avoir un effet et que ça contribue au débat sur la crise identitaire du socialisme, crise dont il relève qu'elle est toujours là. Alors qu'on parle de la création d'un nouveau parti anticapitaliste, on s'aperçoit que toutes ces questions sont quand même posées dans des termes pas très 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 éloignés de ceux qui viennent d'être employés et qui renvoient à cette situation du début ou des années 20, 30, dans lesquels, ou même un peu avant, pour les premiers textes dans lesquels écrit Mauss. Philippe Chagnal, comment vous voyez la pertinence, enfin, je veux dire, l'actualité politique, au fond, de Mauss aujourd'hui, et le fait qu'on soit pas tant que ça au courant de cette dimension politique de l'œuvre ?
si on est peu au courant de la dimension politique de l'œuvre, c'est comme cela a été rappelé, elle n'a pas été éditée. Lorsqu'on a édité les œuvres de Marcel Mauss, on a écarté systématiquement les textes politiques. Ce qui est intéressant d'ailleurs, au moment où ça a été fait. Bon. Désormais, on les a, on peut les lire. Si on les lit, il faut faire attention à ne pas se focaliser seulement sur l'œuvre de Mauss. C'est-à-dire, Mauss est aussi un héritier, pas simplement de Durkheim. Il est l'héritier de toute une tradition socialiste. On commence à la redécouvrir aujourd'hui, enfin. C'est-à-dire, on essaye de voir dans quelle mesure il y a eu en France, peut-être à ce qu'on pourrait appeler la belle époque du socialisme, très brève, entre 1879, le congrès de Marseille, le mouvement ouvrier et socialiste se reconstitue jusqu'en 14. Après la boucherie de 14, c'est une autre histoire qui va se jouer, et pas simplement en raison de la révolution bolchevique. Donc on commence à redécouvrir une tradition là. On réédite par exemple, dans le cadre de la Bibliothèque républicaine, aux éditions Le Bord de l'Eau, un certain nombre de textes vraiment importants sur des socialistes totalement oubliés, comme Benoît Malon, comme Eugène Fournière, qui ont été proches, effectivement, de Mauss. Mauss n'a pas milité pour les coopératives ouvrières tout seul. Il l'a fait dans le cadre de toute une tradition d'un socialisme fédéraliste, républicain, profondément républicain, d'où le conflit très très fort avec les guédistes, et dans lequel on cherche un fondement au socialisme qui permette de contenir, mais aux deux sens du terme, le marxisme. C'est-à-dire l'intégrer et à la fois faire en sorte que le socialisme ne se résorbe pas uniquement dans le marxisme. C'est pour ça qu'il faut le rappeler. L'essai sur le don, il représente une réponse aux événements de Russie. 1924, la NEP de Lénine, c'est 1921. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si même en Russie, qui était sûrement la société européenne la moins monétarisée, il s'avérait impossible d'abolir le marché par décret, alors il faut essayer de réfléchir, savoir qu'est-ce que c'est que le marché, d'où il vient, et qu'est-ce qui pourrait le remplacer d'une façon plausible. Et par rapport à ça, les conclusions de Mauss, elles sont passionnantes et elles supposent ce détour anthropologique long, de montrer effectivement que cette figure de l'homme économique, qui aujourd'hui nous colle à la peau d'un certain point de vue, elle a une histoire, il essaie de la reconstituer contre les fanatiques de la libre concurrence d'hier et d'aujourd'hui, et montrer que l'économie des sauvages, si on peut parler ainsi, elle se base sur quoi? Eh bien, elle se base justement, comme Sylvain l'a rappelé, sur une démonstration de générosité, sur un refus de calculer avec précision ce qui a donné quoi, ce qui a été donné à qui. Et donc, au lieu de lutter pour accumuler le plus possible, logique d'accumulation, les gagnants, on pourrait dire, étaient ceux qui s'arrangeaient pour donner le plus possible. Qu'est-ce qu'ils retirent de cette idée-là, qui peut paraître très vague, et c'est vrai qu'on a guère le temps de le développer. D'abord, une dimension critique. De ce point de vue-là, il y a un marxisme de Mauss qu'il faut rappeler. On n'est pas bien loin de la critique de l'aliénation et de la réification telle qu'elle a été proposée par Lukács, par exemple. Car les économies qui reposent sur le don et les échanges, ils ne revêtent pas cette dimension impersonnelle qu'ils prennent dans le cadre du marché capitaliste. Ce qui importe véritablement, c'est le lien entre les gens. Le don, c'est une machine à faire du lien, dans laquelle le bien est au service du lien. Et par rapport à ça, sa critique, elle est mesurée. Lorsqu'il s'affiche possibiliste, il le fait par rapport à une tradition socialiste possibiliste qui est attachée au nom de Paul Brousse, etc., etc. Le conflit est fort vis-à-vis des guédistes pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées ici. C'est bien un socialisme du possible, mais dans lequel il faut voir que l'expérience russe, elle est fondamentale pour toute cette génération-là. L'expérience russe, elle l'a convaincu que les relations d'achat et de vente, on ne peut pas les éliminer dans une société moderne. Au moins pas dans un avenir prévisible. Il est collectiviste, si vous voulez, mais dans un avenir tellement éloigné qu'on peut se demander s'il le reste. Mais ce dont on doit se débarrasser, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse la revue du Mauss et des enjeux contemporains, ce dont on peut tenter de se débarrasser, c'est de l'éthos du marché. Je crois que la question fondamentale est là. On peut se débarrasser de l'éthos du marché. Il est possible d'organiser le travail sur un mode coopératif. Il est possible de garantir une protection sociale effective, de créer justement un nouvel éthos selon lequel, justement, la seule justification à l'accumulation de la richesse, c'est la capacité de donner. Je crois que cette idée-là est une idée absolument fondamentale qui nous permet de bouger un certain nombre de lignes et de renouer avec une tradition socialiste dans laquelle même la question de la collectivisation, ce n'était pas avant tout une question de justice sociale. C'était aussi cette volonté de freiner par la démocratisation de l'économie la mauvaise concurrence, la concurrence économique, pour donner tout son sens et toute son ampleur à des véritables formes de concurrence, de lutte, de conflit, mais qui ne soient pas lestées, pourrait-on dire, par la question des besoins matériels.
Alors, Philippe Steiner, vous êtes aussi préparatif sur le don d'organes, mais vous êtes d'abord peut-être un spécialiste de la sociologie économique. Vous avez beaucoup écrit là-dessus. Quelle est la place de Mauss aujourd'hui pour penser l'économie du point de vue de la sociologie?
Écoutez, je rejoins volontiers ce que mes collègues ont dit, à savoir que la place de Mauss est tout à fait considérable parce qu'il a eu l'audace dans son essai effectivement de 1924 sur le don, dénoncer ce que je considère un petit peu comme les, le contrepoint de du chapitre 5 de Smith, hein, dans La richesse des nations. Il énonce les règles que les hommes suivent dans les, ces relations de don. Donc, c'est les fameuses trois obligations qui, d'une certaine manière, s'opposent aux règles du do ou des avec lesquelles Adam Smith présente sa réflexion très célèbre sur l'économie marchande. Et donc, à ce titre-là, effectivement, Marcel Mauss va jouer un rôle tout à fait considérable dans la façon dont on va essayer de penser, comme cela a été dit, et je crois à juste titre, la place du marché, parce que c'est véritablement quelque chose de tout à fait fondamental de nos jours. Dans, dans ses conclusions de morale et d'économie politique, il nous dit... L'homo economicus n'est pas derrière nous. Il y avait un long débat à ce moment-là sur la situation qui était celle de l'interprétation des économies archaïques, comme le dit Mauss. Et donc, il va montrer, après Malinowski, qu'effectivement, il y a à la fois des échanges marchands, mais il y a aussi des relations tout à fait différentes chez les trop brillants, etc. Et ce type d'analyse est effectivement maintenu de nos jours dans la sociologie économique et vraiment au cœur de la discussion. Avec toutefois, me semble-t-il, peut-être, je dirais, un bémol. C'est-à-dire que Mauss, et d'ailleurs c'est rappelé dans l'ouvrage de Sylvain Zimira, Mauss a bien conscience qu'il pose des questions plus qu'il n'apporte des réponses définitives. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que ce qui m'intéresse chez Mauss, au-delà de comprendre bien évidemment ce sur quoi il a travaillé, de comprendre comment il peut être appliqué de nos jours, comment il peut intervenir. Or, quand il nous dit... À la fin de son essai, l'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous. On a quand même bien progressé depuis les années 1924. Ça fait presque maintenant 80 ans que ça a été écrit. Donc du coup, l'homo economicus a bien avancé. Et donc effectivement, ce serait l'idée, il faut se défaire de l'éthos marchand. Mais cela étant, je pense que le problème est vraiment plus compliqué pour le point suivant. Je vais essayer d'être bref. C'est qu'on a le marché d'un côté, le don de l'autre, mais on a quelque chose qui s'appelle la gestion. Qui existe maintenant d'une manière extrêmement fine, un petit peu partout, et notamment, par exemple, à l'hôpital. La grande affaire de l'hôpital, c'est la fameuse T2A, tarification à l'activité. Et donc, du coup, on a un problème plus compliqué devant nous que celui de Mauss, économie, don, mais aussi gestion.
Merci Philippe Steiner. Merci à Christian Baudelot. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Olga Baudelot, Une promenade de santé aux éditions Stock. Merci Sylvain Zimira pour Marcel Mauss, savant et politique aux éditions La Découverte. Et merci à Philippe Chagnal. Je rappelle le titre de ce livre collectif, La société vue du don également à La Découverte.
Merci Sylvain Bourmont. Sur France Culture. Bonjour Cyril Lemieux.
Bonjour Caroline.
Le titre de votre chronique ce matin, l'usage des médias nuit-il gravement à la santé ?
Mercredi dernier, le Sénat roumain a voté à l'unanimité une loi qui aurait fait hurler de joie Alfred Jarry, le créateur du Père Ubu. Cette loi, en effet, ne se contente pas d'être absurde. Elle fait aussi l'effort d'être autoritaire et arbitraire dans la plus pure tradition du défunt conducteur Nicolae Ceaușescu. De quoi s'agit-il ? Les sénateurs roumains se sont émus de, je cite, « l'extraordinaire nocivité des informations négatives que diffusent les médias de leur pays ». Selon eux, ces informations négatives ont des effets irréversibles sur la santé et sur la vie des gens. Bref, ils ont considéré que la surexposition des citoyens roumains aux mauvaises nouvelles constituait un véritable problème de santé publique. Et voici le remède de cheval qu'ils ont prescrit. Ils exigent que dorénavant, les programmes d'actualité des télévisions et des radios diffusent au moins 50% de bonnes nouvelles. Il s'agit d'offrir au public, je cite, « des perceptions équilibrées de la vie quotidienne, psychiquement et émotionnellement ». Ne nous gaussons pas. Les censeurs des médias, y compris dans notre pays, ont souvent appelé à leur secours la médecine. Déjà à la fin du XIXe siècle, des médecins français se préoccupaient de ce qu'ils appelaient l'influence du journalisme sur la santé du corps et de l'esprit. Leurs études entendaient prouver le pouvoir criminogène et moralement corrupteur de la presse. Celle-ci, affirmait-il, peut être assimilée à un excitant dangereux qui provoque chez les lecteurs les plus influençables des dérèglements nerveux et de la mélancolie suicidaire. Plus près de nous, en 2002, la commission Kriegel sur la violence à la télévision a doctement conclu que la vue de scènes télévisées violentes peut être assimilée à l'effet du tabac sur les poumons et qu'elle entraîne, je cite, le même caractère mortel que le tabagisme. Pour tenir ces propos d'une redoutable scientificité, la commission se basait notamment sur des études épidémiologiques censées montrer que, je cite, « les garçons qui ont vu beaucoup d'émissions violentes à 8 ans ont à 30 ans un casier judiciaire plus chargé que les autres ». Encore un exemple de cette confusion entre corrélation et causalité que j'évoquais à ce micro il y a quelque temps et à travers laquelle de pseudo-savants empoisonnent le débat public avec de la fausse science. Au fond, le plus caractéristique chez ces censeurs, c'est leur méconnaissance totale de ce que nous enseignent plus de 60 ans d'études de sociologie empirique consacrées à la réception des médias. Sans doute serait-il utile, de ce point de vue, d'offrir aux sénateurs roumains, ainsi qu'aux membres de la commission Kriegel, un exemplaire de deux livres de sociologie qui furent publiés aux États-Unis en 1944 et en 1945. Le premier s'intitule « The People's Choice », le second vient tout juste d'être traduit dans notre pays, 63 ans après sa parution, sous le titre « Influence personnelle, ce que les gens font des médias ». Ces deux livres résultent de deux enquêtes collectives conduites notamment par les célèbres sociologues Paul Lazarsfeld, Eliu Katz, Charles Wright Mills. Et dans ces enquêtes, les chercheurs tentaient de déterminer de quelle façon la radio et la presse écrite influencent les gens dans leurs choix électoraux, mais aussi dans leurs choix de consommation, comme par exemple au moment d'acheter une marque de cornflakes ou de voir tel film plutôt que tel autre au cinéma. Or, contre toute attente, les deux enquêtes montrent que les médias ont des effets négligeables sur ces choix. Pour expliquer pourquoi il en va ainsi, les auteurs ont forgé un concept qui a été promis ensuite à un bel avenir, celui de leader d'opinion. Par ce terme, ils désignaient des gens dotés d'une certaine autorité et d'une certaine crédibilité au sein de leur milieu professionnel et de leur réseau de sociabilité, et dont la vie compte aux yeux de leurs proches, de leurs collègues, de leurs voisins. Ce sont ces leaders d'opinion qui valident ou invalident les messages venus des médias et qui les amplifient auprès de la population ou au contraire en neutralisent la portée. Depuis 1945, ces études pionnières ont été poursuivies par quantité d'autres, souvent plus sophistiquées. Elles ont aussi été critiquées sur bien des points, mais jamais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'importance que jouent les réseaux de relations interpersonnelles comme filtre dans l'usage et l'interprétation que les individus font des messages médiatiques qui leur parviennent. Ce résultat sociologique éclaire le fait qu'il ne suffit pas de regarder des films violents à la télévision pour passer à l'acte. Encore faut-il être intégré dans un milieu social où de tels actes violents sont valorisés. De même, n'en déplaise aux sénateurs roumains, il ne suffit pas que les citoyens roumains soient bombardés de mauvaises nouvelles pour qu'ils fassent des dépressions. Encore faut-il qu'ils vivent dans des milieux sociaux et professionnels eux-mêmes déprimés. Bien évidemment, il est plus facile pour le législateur de s'en prendre aux médias que de mettre en œuvre les réformes sociales de fond qui entraîneraient que certains milieux sociaux génèrent moins de violence physique ou d'abattement moral. Cette facilité laisse craindre que les législateurs continueront encore longtemps à ignorer les résultats les plus tangibles de la sociologie des médias, qui les dérangent, et à leur préférer leurs fantasmes médicaux, aussi peu scientifiques soient-ils.
Cyril Lemieux, merci et à mardi prochain. C'était la suite dans les idées, une émission de Sylvain Bourmeau dans Question d'époque. La semaine prochaine, Sylvain Bourmeau.
On évoquera une grande figure palestinienne, Edward Said, à l'occasion de la publication d'un ensemble d'essais. Ce sera avec une autre figure, grande figure palestinienne, Elias Samba.
En Question d'époque, coordination Inès De Bruyne, réalisation Doria Zénine. À la technique ce matin, Bruno Gagnère-Fontanille. On se retrouve demain à 11h pour les questions d'époque avec Antoine Garapon. La justice urgentiste sera le thème du bien commun. Et Antoine recevra pour l'occasion Benoît Bastard qui est sociologue et Pierre-Yves Couillot qui est procureur au tribunal de grande instance d'Angoulême.